Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Bienvenue à tous à l'émission « Ça tient la route ». Si c'est votre première fois, nous, c'est notre troisième saison.
Alors, t'as raison.
Non, mais on prend les gens quand ils sont là. Hein?
Bienvenue
à l'émission. Ouais. Alain McKenna, ça va bien?
Ça va très bien.
Ben oui, ceux qui étaient là avec nous la semaine dernière, on a reçu en studio, rien de moins,
notre
Pierre Fitzgibbon.
Et seul à date.
Absolument, ouais, qui est venu faire une longue entrevue avec nous, parler un peu, évidemment, de tout ce qui concerne l'automobile, le transport avec un grand T, à travers la campagne électorale. Caquiste et ce qu'on veut faire si on continue comme gouvernement dans les prochaines les 4 prochaines années.
Ouais.
On va recevoir cette semaine une représentante de Québec solidaire, Alain.
Oui, Ruba Gazal qui en fait représente Québec solidaire dans Mercier, mais qui est aussi critique officielle pour Québec solidaire là, à l'économie.
OK.
Et qui était en fait, sur le même panel que Pierre Fitzgibbon, où on parlait du transport, la voiture électrique, l'électrification, pardon, tout ça, pour l'industrie québécoise du transport, il y a quelques semaines, et c'est là que j'ai rencontré les deux, et je leur ai dit que là, on va appeler donc.
Ben
on va
oui.
trouver une espèce d'équilibre entre les deux.
Parfait. Alors, elle va venir nous parler de la vision, évidemment, de Québec solidaire, vous l'aurez compris. On va également avoir, moi, j'arrive d'un lancement éclair en Espagne, et quand je dis éclair, je suis parti dimanche, j'ai roulé lundi, je suis revenu mardi. Ça, c'est éclair.
Ça, si ça, j'y vais à l'oreille, ça sonne comme Audi.
Oui, ça sonne comme Audi.
Voilà. On les connaît, les autres.
Audi RS5. En fait, c'est drôle parce que la dernière fois que j'avais roulé, en fait, la première génération de la Audi RS5, c'était au circuit Ascari en Espagne.
Okay.
Et c'est la fois où le volcan au nom imprononçable en Islande a pété.
Ah oui.
Et on avait dû passer par le Mexique pour revenir à Montréal parce que tout ce qui allait vers la côte ouest américaine, le Canada, les États-Unis, tous les trajets, les corridors aériens étaient fermés. Et hier, on a failli manquer notre vol à Francfort. On est passé à un poil de pas revenir hier, mais de revenir aujourd'hui quelque part, mais finalement, on l'a fait. Mais je peux pas trop en parler parce qu'il y a un embargo jusqu'au 5 octobre. Fait la semaine prochaine, je vais pouvoir vous donner les détails de tout ça. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de la Volvo S60, qui est mon essai de la semaine. Toi, Alain, tu as un Chevrolet Bolt EUV, je pense, à l'essai.
Ouais, ben la Bolt, on la connaît. La Bolt EUV, pas mal moins. Puis c'était pas prévu. Il y a eu un problème de pneus, je sais pas quoi, sur le véhicule que j'avais essayé cette semaine, qui était beaucoup moins intéressant. Et là, paf, on m'a demandé à la place de conduire ce véhicule-là, qui est quand même assez cool.
Ben absolument.
Mais qui a ses défauts, malheureusement.
Ben c'est ça. On va en parler tantôt. Puis évidemment, comme à l'habitude, tu as des petites nouvelles pour nous, mon cher Alain. Alors, on t'écoute.
Oui, ben tu sais, dans notre intro musicale, on parle de transition, d'électrification, de plein de buzzwords super le fun. Il y en a un qu'on n'a pas, et c'est métavers. Alors, il va falloir refaire notre... Peut-être penser avec Claude, là, à la réalisation, si on peut pas refaire notre belle pour inclure métavers. Parce que Mercedes va dévoiler, c'est le 29 le septembre, donc ça se peut que je vous le dise au passé, si vous nous écoutez la semaine prochaine, mais va dévoiler une voiture prête et conçue exclusivement pour le métavers.
Alors, c'est les gamers qui vont avoir la voiture en premier.
Le métavers, cette espèce de ramassis d'environnement virtuel, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être de la réalité virtuelle, ça peut être plein des affaires. Évidemment, c'est un buzzword en ce moment dans les technos. Et évidemment, les ingénieurs de Mercedes-Benz ont pris bonne note de l'existence de ce mot-là. Ils préparent en ce moment même un véhicule concept qui pourrait bientôt être mis sur la route tout à fait virtuel de l'environnement du jeu vidéo League of Legends.
Oui. Que Mercedes commandite, je pense.
Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que Mercedes est le commanditaire principal du championnat annuel de League of Legends parce que c'est une compétition de ce qu'on appelle du e-sport, du sport électronique. Ça, c'est plein de monde qui se réunit dans un aréna, puis qui joue, puis qui compétitionne, puis qui regarde les gens qui compétitionnent.
J'ai regardé ça une fois là avec des drones, là, des courses de drones.
Ben,
là,
ça, c'est un autre truc, mais c'est dans le même, c'est dans le même esprit, effectivement. Là, on est devant des écrans, puis on joue dans l'espèce d'environnement. L'an dernier, Mercedes a remis au gagnant du championnat des bagues à l'effigie à la fois du jeu vidéo et de la marque automobile, dans laquelle étaient incrustés de petits diamants synthétiques faits à partir de carbone capté dans l'atmosphère. Ça vous donne une idée de ce genre d'implication-là. Cette année, ben, on va demeurer un peu plus dans le virtuel. Là, c'est le designer en chef du groupe allemand Gordon Wagner qui a publié sur Twitter une image du prototype en question, lequel est caché sous une toile semi-transparente. C'est un gros teaser, là. C'est vraiment juste pour faire jaser. On voit que le véhicule a la forme d'un coupé aux proportions assez particulières. Il y a quelque chose de très futuriste, là. Ce serait probablement, en fait, jamais capable de tenir sur une route normale, vu les proportions. Mais sur une route virtuelle, bien évidemment, c'est une autre histoire.
Route virtuelle, il n'y a pas de problème. Ça peut peser 12 tonnes par avoir un moteur de 32 cylindres. Il n'y en a
gens,
pas de problème.
Bon, vous parlez de Mario Kart, tu sais, je veux dire, bon, ça existe, même si c'est pas c'est réel. Et pour vrai, Mercedes-Benz espère, dans le fond, qu'avec ce geste-là, là, le constructeur va pouvoir conquérir le cœur des amateurs de jeux vidéo partout dans le monde. C'est ça l'objectif.
Il faudrait qu'il y ait une conversation avec Mark Zuckerberg, là, parce que son métavers, ça y a coûté la peau des fesses.
Ben, tu sais, la réalité virtuelle attire les constructeurs. Audi, ouais, pendant un bout de temps, utilisait un casque pour proposer une forme de magasinage virtuel où tu pouvais, devant tes yeux, changer la couleur de ta voiture.
Parce que tu vas chercher la jeune génération là où elle est. Tu sais, les constructeurs automobiles, là, le but de tous les constructeurs automobiles est de toujours tenter de rajeunir sa clientèle, d'amener la prochaine génération vers l'automobile. Et quoi de plus intéressant ou de plus attirant que le métavers? Parce que tous tes 18-30 ans là, sont tous installés là.
Et le sport électronique est très... C'est drôle parce que ça passe un peu sous le radar, évidemment, de bien des constructeurs, c'est sûr, dans l'automobile, mais dans une grosse partie de l'économie, mais c'est quand même un truc très important.
Oui. Écoute, t'as des constructeurs qui ont introduit des modèles auto sur des jeux vidéo.
Oui, Gran
Turismo. Puis t'en as Grand Theft Auto. T'as eu quelques jeux là, très populaires. Et on passe là avant de l'introduire pour le vrai au public. Là.
Éventuellement,
alors,
voilà.
Donc on voit un peu le pouvoir là, d'attraction de ces jeux-là. Ça, c'est intéressant. Puis là, tu nous parles de l'industrie du camionnage qui se rapproche encore un peu plus de l'hydrogène.
Ouais, ça, c'est un peu plus terre-à-terre comme nouvelle.
Oui.
Mais on peut dire, et là, je vais faire un bon jeu de mots, que la chimie opère entre le secteur de l'énergie et celui du transport sur le sujet de l'hydrogène. Merci. Merci pour le fait sonore. Et si on a l'impression que la voiture hydrogène n'est pas très près d'intéresser le grand public. Le poids lourd à hydrogène, lui, semble de plus en plus convaincre un peu tout le monde là, sur la planète, en fait. D'ailleurs, je n'en parle pas là, mais il y a une nouvelle. Le fédéral vient d'annoncer 500 millions de dollars pour un programme d'infrastructure d'hydrogène partout au Canada. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a eu un événement cette semaine appelé IAA Transportation qui avait lieu à Hanovre, en Allemagne, et on a pu y voir quelques prototypes de camions à pile à combustible. On sait que Toyota pousse fort pour voir là, cette technologie-là adoptée en Amérique du Nord.
Je suis allé en Californie à l'usine même où on a des piles à hydrogène dans les camions. Il y a une espèce de réseau qui est encore pas très étendu. Dans une région, ça reste localisé, mais tu as plusieurs compagnies. C'est un espèce de parc industriel où il y a une énorme station-service Shell qui offre de l'hydrogène. Mais on nous a montré... Je comprends que ça coûte cher. C'est de l'entretien. Il y a une énorme, une espèce de grosse boîte. Là, ça a l'air d'un garage, mais c'est plein. Ça, c'est tous les contrôles de l'arrivée en hydrogène, de la mise sous pression. Il y a quelqu'un qui... En fait, 24 heures par jour, il y a des gens là-dessus. Puis la pompe est située dans un parc industriel où là, évidemment, beaucoup se sont convertis à ça parce que t'as la station à côté de chez vous.
Mais ils ont des obligations en Californie aussi qui s'en viennent de volume
minimal. Toyota a dit, pour le moment, ça fonctionne extrêmement bien. Ils ont des camions à l'essai depuis plusieurs années qui parcourent, là, qui sillonnent les États-Unis, le Canada d'un bord à l'autre.
Ouais.
Et pour les longs parcours, ça semble être une solution franchement intéressante.
Exactement. Évidemment, bon, là, la technologie d'hydrogène est disputé de plein de façons. Il y a beaucoup de gens qui... Puis c'est pas la panacée, là, on s'entend, mais c'est vraiment une direction forte pour l'industrie du camion lourd. Mais c'est pas la seule. Daimler, pas à Francfort, mais à Hanovre, a profité de l'événement là, pour dévoiler un camion électrique aussi, qui va être vendu chez nous sous la marque Freightliner. Donc, ça s'en vient pour vrai bientôt.
Ça appartient à Mercedes, Freightliner.
En plus de Daimler, il y avait Volvo, Iveco, la société chinoise BYD, là, qui ont tous présenté des camions électriques durant la conférence. Ce que les constructeurs commencent à entrevoir, c'est un monde où les camions de livraison qui circulent vont, surtout en bonne partie dans les milieux urbains, là, pourraient être électrifiés parce que c'est un meilleur contexte pour le faire.
Pour la courte distance.
Exactement. Et les camions qui font beaucoup de longues distances, d'autoroute, d'un entrepôt à l'autre, serait hydrogène. Et là, je vais pousser un peu plus loin, il pourrait aussi être autonome parce qu'il y a beaucoup de développement de ce côté-là. Quand on fait le même trace, tu sais, l'aller-retour,
en fait, il y a déjà,
sans arrêt,
ceux qui connaissent bien le milieu du camionnage savent qu'il y a déjà des systèmes autonomes très développés en camionnage. Là, on a des systèmes qui sont presque autonome. Là, on est l'équivalent d'un niveau 3 là, dans bien des cas.
Ouais. Ce qui est nouveau dans tout ça, parce qu'on parle d'hydrogène on et off depuis genre 40 ans, c'est que là, on sent vraiment une urgence chez les constructeurs dans l'industrie pour passer à quelque chose d'autre.
Puis on commence à mettre des montants d'argent substantiels de côté pour ça.
Exactement.
Ça, c'est souvent assez annonciateur.
Et on en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Pierre Fitzgibbon. J'ai hâte de voir avec Mme Gazal, mais l'hydrogène au Québec aussi commence à faire jaser et commence à être considéré de façon, je mets des guillemets, urgente comme une solution qu'il faudrait vraiment essayer plutôt que tard. Donc, ça pourrait qu'on voit des camions à hydrogène sur nos routes plutôt qu'on le pense.
OK. Moi, de mon côté, tiens, je vais aller chez Ram parce que là, on est pas mal en train d'annoncer le retour d'un modèle Dakota.
Oh.
Bon, on l'a pas dit comme ça, mais on veut présenter du côté de Ram un modèle intermédiaire. Bon, évidemment, le premier qui nous vient en tête, c'est le Dakota. Est-ce qu'on va continuer de l'appeler comme ça? Il faut souligner que le départ du Dakota date de 2011. Donc, ça fait déjà un peu plus de 11 ans qu'on n'a pas vu ce modèle-là. Mais là, on a vu le succès du Colorado, du Canyon qui sont revenus.
Mm-hmm. Maverick.
Ford a regardé ça, puis a dit qu'il faudrait ramener Ranger. On a ramené le Ranger, ça fonctionne. Et là, le Maverick fonctionne encore beaucoup mieux que le Ranger. Aux États-Unis, les Mavericks là, sont durs à trouver tellement ils ont vendu rapidement.
Mm-hmm.
Fait que là, Ram s'est dit, ouais, peut-être que ça sera pas une mauvaise idée. Parce que là, on a, tu sais, le Tacoma est toujours là. On a renouvelé le Frontier. Fait que là, tu sais, on a un segment, là. Il y a eu quelques années où le Frontier de la vieille version a résisté et a continué de se vendre, tout comme le Tacoma.
Ouais.
Mais on ramenait littéralement le même modèle d'une année à l'autre. Alors là, ça va avoir l'air de quoi? Ça va-tu être électrifié partiellement? Ça va-tu être seulement essence? Est-ce qu'on va amener des versions plus sportives? On peut-tu voir un Dakota TRX? Ça se peut-tu, ça? ou sans qu'il y ait un V8, quelque chose d'un peu plus mordant? Mm-hmm. Tu sais, on parle d'un Ranger Raptor. Bon, on pourrait voir. Mais chose certaine, on dit que 2024, ça devrait être l'année où on va annoncer ça. Parce qu'on disait, ouais, mais il y a un Jeep Gladiator, mais les gens de Ram ont dit, ben, c'est un autre clientèle, ça. Tu sais, c'est pas la clientèle. Puis le Gladiator, là, en bas de 75 000,
oui,
t'as de la misère à en acheter un. Tu sais, il y a des gens qui veulent quelque chose de pratique pour faire du jardinage, du plein air, mais qui n'ont pas besoin de tirer une remorque de 40 pieds, qui n'ont pas besoin d'amener deux autos en arrière ou qui font pas d'équitation.
Mm-hmm.
Ils ont juste besoin de quelque chose qui est correct. Alors, et il semble pas que le prix soit un obstacle, parce qu'on dit que dans bien des cas, ça dérange pas les gens de payer ne serait-ce que à peu près le même prix du moment que on a un véhicule qui répond à ses besoins. Fait que ça, on verra. C'est intéressant de constater. Puis on sera probablement en mesure de regarder ça de plus près. Et autre dernier sujet qui nous intéresse, on a aussi cette semaine, il y en avait pas mal, mais un sujet que j'ai regardé de près. Il y a un nouvel adaptateur pour Tesla qui est arrivé,
oui.
Qu'on attendait, en fait, qui est arrivé en Corée du Sud l'an dernier.
Mm-hmm.
Et depuis que c'est arrivé, les gens le réclamaient ici.
Il débarque au Canada ces jours-ci.
C'est ça, c'est un CCS combo. En fait, c'est le chargeur pour aller dans toutes les recharges publiques qu'on connaît, que ce soit Circuit électrique, ChargePoint, Electrify Canada, nommez-les. Et ça va permettre aux gens de Tesla de charger ailleurs. Donc, ça, c'est intéressant.
Ben oui.
250 $ américains à peu près là, pour l'adaptateur.
C'est un gros machin, c'est pas petit.
Ouais, c'est assez gros.
Ouais.
Et là, pour le moment, c'est disponible pour les modèles 2020 et plus. Donc, les modèles 3S, Y, X, mais les 2020 et moins, on dit qu'on va, on travaille là-dessus, qu'on va avoir quelque chose, mais pour le moment, là, c'est 2020, 21, 22.
Mm-hmm.
Donc, c'est un début, mais tranquillement.
Ben, c'est
parce que là, on le sait que Tesla s'ouvre aussi. Là, on a commencé en Europe, les chargeurs Tesla. Les autres autos peuvent aller charger chez Tesla.
Mm-hmm.
Et on veut éventuellement faire la même chose ici. Donc, c'est un premier pas dans la bonne direction. Absolument. Donc, nous, on va à la pause et on revient avec notre invité de Québec solidaire.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, comme annoncé en début d'émission, on a Mme Ruba Gazal, qui est candidate de Québec solidaire dans Mercier et critique officielle en économie à l'Assemblée nationale. Évidemment, pour Québec solidaire. Bonjour, Mme Gazal.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous, c'est gentil. On va parler beaucoup du côté de Québec solidaire, de transport en commun. Je pense que c'est un de vos chevals de bataille durant la campagne électorale, évidemment, qui se poursuit jusqu'au 3 octobre prochain.
Oui, exactement. Même on a appelé ça révolution transport. Parce que c'est pas juste, ça devrait pas être juste le cheval de bataille de Québec solidaire, ça devrait être l'ambition de tous les partis qui se présentent, parce qu'aujourd'hui, là, il faut donner le choix aux gens qui ont envie de se déplacer de façon moins chère, efficace, rapide, en transport en commun, et non pas d'être pris juste avec une seule option qui est prendre leur voiture. Puis pour ça, ben, ça prend des investissements majeurs.
Ouais, je dis souvent, puis c'est drôle parce que ça fait réfléchir les gens, qu'en ce moment au Québec, on investit dans les routes, mais on dépense en transport en commun. Il faut un peu inverser cette pensée-là, j'ai l'impression, parce qu'effectivement, si on passait à l'envers, le transport en commun serait un peu mieux développé, j'imagine.
Oui, absolument. C'est comme une habitude. On a en Amérique du Nord, on est obligé, toutes les villes ont été construites dans le temps, c'était très moderne dans les années 50, 60, de développer tout à l'auto, de se déplacer uniquement en auto, ça faisait partie de la modernité de l'époque. En 2022, ça doit plus être le cas. Donc, le gouvernement se targue souvent, oui, on investit en transport en commun, mais ce qu'ils ne disent pas, la CAQ, c'est qu'ils investissent le double et plus pour agrandir des routes, pour prolonger des routes, des autoroutes. Nous, à Québec solidaire, on dit qu'il faut arrêter ça, de développer encore plus les routes et les autoroutes. Souvent, ça va empiéter sur des milieux naturels en plus, des terres agricoles. On en a tellement peu, il faut les protéger. On peut le faire uniquement pour désenclaver des communautés qui sont vraiment isolées ou pour des questions de sécurité, évidemment. On peut revoir une route pour la sécurité. Mais à part ça, ce qu'on a besoin de faire, c'est rattraper notre retard historique. Je sais pas si les gens qui nous sont au courant, là, ça fait je sais pas combien de fois à Montréal qu'on parle de la ligne bleue. C'est une, c'est une promesse depuis tellement, tellement longtemps. Il n'y a pas de raison que ça aille pas plus vite que ça. Il faut avoir la volonté, mettre l'argent sur la table et avoir une vision pour le transport. Puis les gens, là, on voit avec, par exemple, les trains de banlieue dans la banlieue de Montréal, ben c'est utilisé. Mais les gens sont comme on dit dans des classes sardines. Mais s'il y a de l'offre, les gens vont, ils sont très heureux de pouvoir laisser leur voiture, puis surtout que ça coûte très cher, puis prendre le transport. Mais pour ça, faut pas que ça soit des sacrifices personnels, puis faut qu'ils disent, hey, moi j'aime l'environnement, puis je vais dépenser 4 heures par jour pour me déplacer. Faut que ça soit efficace, puis faut que l'offre soit là. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de propositions dans les grands centres urbains.
Faut que ça reste abordable aussi, effectivement. Puis faut éviter les multimodales compliquées, là, effectivement.
Exact, pour que ça soit abordable, confortable aussi et efficace, rapide. Donc, c'est pour ça qu'on on a fait autant de propositions en transport en commun dans les grands centres urbains.
Cela dit, les autos vont pas disparaître du jour au lendemain. Il y a quand même un consensus au Québec, j'ai l'impression, là, que l'auto électrique fait partie de la solution quand même, ou en tout cas, est une partie de la solution pour réduire les émissions polluantes, là, au moins ce point-là. Mais pas seulement l'auto électrique, hein. Je pense que vous avez quand même aussi un plan de mobilité plus large. On parle de transport quand même, mais aussi de mobilité active, si je me rappelle bien.
Oui.
Qu'est-ce qu'exactement ça signifie, ça, de votre côté, là?
Ben, c'est-à-dire que, parce que souvent, quand on parle de transport en commun, transport collectif, les gens vont dire, oui, mais moi, j'habite en région, on peut pas avoir de ligne de métro, ça va coûter bien trop cher, il n'y a pas assez de monde. Mais il y a toutes sortes de façons, il n'y a pas juste des grosses infrastructures. Ça peut être, par exemple, les gens, comme je disais, plus ça peut être des autobus rapides sur des voies réservées, sur les autoroutes, mais ça peut être aussi du transport sur demande. Mm-hmm. Par exemple, dans des régions où il y a moins, tu sais, il n'y a pas une ligne qui passe à toutes les quarts d'heure, là, ben quelqu'un peut juste appeler, dire que moi j'ai besoin d'avoir un transport. Puis ça peut être comme un service d'autobus un peu plus petit ben il va avoir ce service de transport. Des fois c'est des compagnies de taxi aussi qui peuvent donner ça. Donc ils vont venir se déplacer pour que vous puissiez aller à votre rendez-vous où vous voulez. Et s'il y a d'autres personnes, ils vont ramasser d'autres personnes aussi sur la route en même temps. S'il y a plusieurs personnes qui appellent en même temps. Fait qu'il y a comme des systèmes intelligents pour permettre à ces gens-là de se déplacer, sachant qu'il n'y a pas d'heure de pointe dans ces régions-là. Ça peut être aussi de l'autopartage. Moi, c'est sûr, je suis chanceuse par rapport à ça. Je suis sur le plateau. Il y a beaucoup de communautés, mais même là, on en manque. Mais il faudrait. Puis là, il va y avoir divulgacher une proposition que la campagne n'est pas terminée. Gabriel Nadeau-Dubois va en faire une pour aussi de l'autopartage, pas seulement dans les quartiers centraux de Montréal, on en veut aussi dans les régions.
Il existe des applications qui sont malheureusement un peu méconnues, mais qui offrent, parce que ça, c'est un enjeu de banlieue aussi, matin et soir, aller au travail, en autopartage, ça se fait. Dites-moi, madame.
Non, c'est ça.
Oui, voilà. Madame Gazal, juste pour, on va aller un petit peu dans une autre direction, le chef de la CAQ, là, François Legault, a clairement du plaisir, là, à parler des taxes oranges, là, pour s'attaquer à Québec solidaire. Il y a effectivement un projet de taxer les véhicules les plus polluants chez vous, sous certaines conditions, là, ça, c'est quand même un détail non négligeable. Le concept bonus-malus a été prouvé ailleurs dans le monde, d'ailleurs, pour provoquer un changement durable des habitudes d'achat des consommateurs. Et pourtant, il semble très loin de faire l'unanimité au Québec. Pourquoi, selon vous?
Écoutez, c'est l'éco-fiscalité, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire d'utiliser la fiscalité, la taxe, les impôts, pour changer les comportements des gens. Donc, nous, notre proposition, juste pour la clarifier pour les gens, parce que tellement de choses ont été dites, c'est les gens qui ont déjà des VUS, là, des automobiles plus polluants là, à essence, sont pas touchés. C'est vraiment juste les nouveaux véhicules. Si nous, on prend le pouvoir, les gens qui veulent acheter des VUS, on va la taxer de 15%. Les gens qui achètent des voitures électriques vont avoir un bonus, comme c'est le cas actuellement, de à peu près 15%. Ouais. Donc ça, on le touche pas, mais la taxe, on vient l'ajouter. Avec des exceptions, si on habite en région éloignée, si on utilise ce véhicule-là pour le travail, si on a une famille de 4 personnes et plus, donc une famille nombreuse, là, on ne va pas le toucher. Là, les gens disent « ouais, c'est bien compliqué », mais il faut aussi avoir des mesures de fiscalité qu'on adapte. Il y a des programmes au Québec qui ça dépend de la situation familiale. Après ça, c'est possible de le faire de simplifier. Nous, c'est le principe qu'on veut mettre de l'avant parce que c'est vrai, comme l'a dit dans un rapport le commissaire au développement durable, au Québec, on n'utilise pas la fiscalité pour amener des changements.
C'est vrai, mais je pense, Madame Gazal, en quelque part, que ça va être une nécessité parce que on le voit là, ça a été des instruments de changement. Moi, j'ai toujours la Norvège en tête, bon, qui sont un peu à l'extrême parce qu'on pénalise sévèrement là, les gens qui achètent un véhicule à essence au point où c'est complètement inintéressant d'acheter ces véhicules-là. La France le fait depuis des années. Et ça aussi, ça a pris beaucoup de temps à passer dans le public. Je pense que ça prend un sérieux courage politique parce que là, au lieu d'avoir la méthode de la carotte, on a la méthode du bâton. Et la méthode du bâton, ça passe rarement bien. Sauf que je pense que en quelque part, ça va être dans la modulation, dans la façon de l'amener. Parce que peu importe le parti politique, je pense qu'un jour, si on veut voir de vrais changements, parce que là, en ce moment, les gens chialent, mais ils changent pas leurs habitudes.
Mm-hmm. Il faut... Exact.
Même si l'essence coûte 1,80 le litre, c'est ça.
Oui, c'est ça. Exact. Puis vous avez dit un mot important, ça prend du courage. Puis on est capable aussi de faire les choses de façon intelligente au lieu de faire peur au monde. Vous savez, nous, il y a une quinzaine d'années, on disait qu'au Québec, on n'est pas en état pétrolier. Il faut arrêter d'exploiter les hydrocarbures. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé avec le gaz de schiste et tout ça. Il y a eu un soulèvement. Ouais. Puis les gens nous regardaient, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, même la CAQ a adopté un projet de loi pour arrêter d'explorer ou faire de l'exploitation ou l'exploration des hydrocarbures, donc 15 ans plus tard. Fait qu'à un moment donné, avec la taxe, ça va arriver. On la met dans l'espace public parce que les experts nous disent que c'est la façon la plus efficace. Faut utiliser la carotte, oui, puis nous, on le met, là, la carotte, là, on la lâche pas. Pour les gens qui achètent une voiture électrique, on peut pas remplacer...
Mais si tu prends pas la carotte, il y a un petit bâton à côté.
C'est un équilibre entre les deux,
Exact. Faites pas avoir... Puis vous l'avez dit, ça prend du courage, et moi, je suis certaine qu'on n'aura pas le choix, parce que chaque année, il y a un rapport qui sort, puis qui dit que le nombre de véhicules polluants sur nos routes ne cesse d'augmenter. On s'en va dans un mur... Et on est en train de payer le prix collectivement de toute façon. Mais en même temps, il faut donner des alternatives aux gens. C'est pour ça qu'on a tous ces projets de tramway, de SRB, de service rapide.
Parlant de projets collectifs, Madame Gazal, moi j'ai voyagé beaucoup dans mon travail. On va dans des pays, beaucoup en Europe, où le système de transport public est à l'heure, est organisé, est fréquent, est à jusqu'à 2 heures du matin. On peut facilement aller où on veut. Il y a beaucoup de travail à faire si on veut arriver à quelque chose de semblable. On commence où?
Oui, c'est la bonne, mais on commence par la volonté de dire, ben, faut que ça arrête, puis il faut qu'on développe des transports en commun rapidement. Ça se peut pas que ça prenne 20 ans. Un bout de ligne de métro, là, comme la ligne bleue, ne soit jamais fait. Puis qu'on l'annonce, on l'annonce. Si on a la volonté de dire, ben là, maintenant, on va donner le choix aux gens de se déplacer en transport en commun, puis on va mettre l'argent, puis ben ça prend ça. Ça, c'est la première étape. Alors que là, M. Legault, il regarde notre plan, par exemple, juste pour Montréal et ses banlieues, ce qu'on propose, 47 milliards, c'est beaucoup d'investissements. C'est 2030, ça ne veut pas dire que tout va être fini en 2030, mais on donne l'impulsion, on met l'argent sur la table, puis l'argent, on va la prendre où? Ben, on va l'enlever des projets comme le troisième lien, comme des projets d'agrandissement puis de prolongement d'autoroutes un peu partout. Cet argent-là, on va l'économiser en le mettant dans le transport collectif. Donc, c'est possible. Et après ça, il faut travailler avec les sociétés de transport puis les experts en transport. On a l'Agence régionale de transport métropolitain que malheureusement le gouvernement a toujours mis de côté, alors qu'il y a une expertise là pour la développer, pour dire, OK, ben tu sais, nous, on a comme dessiné des lignes. Là. Les gens peuvent aller taper Révolution de transport région métropolitaine, puis ils vont voir Québec solidaire, puis ils vont voir où est-ce qu'on a mis des lignes de tramway, de SRB, de prolongement de métro, etc. Mais ça, c'est une proposition qu'on fait qui est perfectible. Ouais. Maintenant, on s'assoit avec les agences régionales de transport comme l'ARTM, et eux, ce sont les experts, ils vont dire, parfait, voici les études. Les études nous disent que les gens ont besoin, par exemple, dans l'Est de Montréal, ben, de se déplacer.
Ils ont un autre problème, il manque de chauffeurs d'autobus en ce moment.
Il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre, c'est vrai.
Il nous reste,
les défis sont grands.
Ouais, il nous reste 3 minutes, juste d'aller un petit peu c'est un peu le prolongement de ça, parce qu'on parle de transport en commun, puis ça prend évidemment de la main-d'œuvre et des ressources, mais il y a aussi une autre façon de décongestionner. Puis je l'ai remarqué récemment à Manhattan, à New York. Eux, ils ont, en 2018, changé la règle pour autoriser les vélos électriques. Ça, ils partaient d'ailleurs. Là. Puis il y a 5 ans, et oui, Montréal, c'était comme la reine du vélo en Amérique du Nord. Mais là, clairement, depuis 2 ans, on a raté le virage. Toutes les villes aux États-Unis ont des pistes cyclables incroyables, même en Californie, qui est pourtant le berceau de l'automobile en Amérique du Nord. Là. Montréal n'est vraiment plus la ville qui mène ce virage vélo-là en Amérique du Nord. On peut le dire comme ça. La semaine dernière, on a reçu Pierre Fitzgibbon qui, pour moi, c'est une première fois, il se montrait ouvert à aider l'achat de vélos électriques, par exemple, pour remplacer. On se disait, l'idée, c'est d'enlever des véhicules sur la route rapidement, puis ça va apparaître comme une solution. Puis là, est-ce que vous seriez, chez Québec solidaire, intéressé à travailler de concert avec des guillemets, là, avec la CAQ, pour pousser une proposition comme celle-là, pour faire de la place à plus de vélos électriques ou des transports, disons, alternatifs, appelons-le comme ça?
Oui, absolument. Puis même, là, c'est pas dans notre cadre financier, là, mais absolument, moi, je me rappelle, pendant la pandémie, j'avais même proposé de subventionner même l'achat de vélos pour donc la carotte. Fait que j'avais proposé
puis
capable.
Puis on le disait la semaine dernière, tu sais, un bon vélo électrique, c'est plus de 5 000 $ dans bien des cas là.
Moi je suis chanceuse ici, je l'utilise beaucoup là, même pour faire campagne avec Bixi.
Oui, ben les vélos Bixi électriques font toute une différence.
C'est incroyable, c'est génial, mais faut pas oublier de porter son casque par exemple. J'en vois beaucoup qui en portent pas. C'est obligatoire, mais pas pour le vélo normal, mais si ça change une vie. Vraiment. Puis les gens sont prêts. Les gens, là, si on faisait un sondage, M. Legault aime ça, là, fonctionner par sondage, c'est peut-être pour ça que M. Fitzgibbon était d'accord. Si on fait un sondage, les gens le veulent. Ça coûte moins cher, c'est le fun, ça leur permet de rester actifs. Même en vélo électrique, je veux dire, on pédale quand même. Là.
Ouais.
Puis s'il y a une côte, ben, c'est génial. Les gens aiment ça, ils ont envie, ça les maintient en forme, puis ça leur coûte moins cher, mais faut que, et ça peut pas être juste des personnellement, chaque personne doit payer un montant, il faut que le rôle de l'État, c'est de donner le choix aux gens puis de donner cette impulsion-là en mettant l'argent, puis en mettant l'argent à la bonne place. Et pour ça,
on aura entendu parler des taxes oranges. On a maintenant la carotte orange.
Voilà, exactement.
La carotte orange. J'aime beaucoup ça.
Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Mme Gazal. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Je vous rappelle qu'on était avec Mme Ruba Gazal, candidate de Québec solidaire dans Mercier et critique officielle en économie à l'Assemblée nationale. Alors, merci beaucoup, Mme Gazal, et nous, on revient avec nos essais routiers après la pause.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est la portion essai routier. On en parlant des émissions, Alain, t'as essayé un peu par défaut. On peut-tu le dire demain?
Un peu malgré moi, mais je veux dire, on m'a pas forcé. On m'a pas tendu un bras non plus, là.
Alors, t'as essayé le Chevrolet Bolt EUV.
Ouais.
Qui est la version allongé, appelons-la comme ça, du modèle Bolt régulier. Là.
Un gros pied de plus, exactement. Ça a pris plus de temps que prévu, là. Mais Chevrolet est finalement parvenu à mettre en marché de façon assez normale, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont produits, là. À la fois la Bolt EV, la Bolt EV, hein, parce qu'on le sait, il y a eu des problèmes de batterie l'année passée, à la fin de l'année dernière, puis ça s'est
tiré. Ça traîne encore, là, soyons honnêtes.
Exactement.
On a recommencé depuis à peine quelques mois là à une production dite à peu près normal. Là.
Puis je disais tantôt, c'est un peu par hasard que je l'ai essayé, parce que c'était pas prévu. Puis chez General Motors Canada, le mot officiel, c'est on n'en a pas, parce que justement, on était en train de revenir à la normale. La version EUV, là, est un peu plus spacieuse. On peut aussi dire plus pesante, là, que la Bolt EV tout court. Et tout ça fait qu'elle coûte 2 000 $ de plus que le modèle de base. Et son autonomie par charge est un petit peu moins longue, sous les 400 km.
Étant donné le poids, évidemment.
Je veux dire, à 400 km environ, mais je trouve que c'est correct. Oui. Le modèle que j'ai essayé m'indiquait 398 km d'autonomie maximale. En pratique, mon autonomie était d'un peu plus de 300 km, étant donné que la capacité de recharge avait été limitée par GM à 80%. Pour éviter justement d'user prématurément la batterie. Là, je ne sais pas à quel point ça affecte tous les Bolt EUV ou pas, parce que chez GM Canada, là, on m'a indiqué que c'était une des mesures mises en place pour les exemplaires des Bolt qui n'avaient pas encore eu droit à une inspection et un remplacement de leur batterie. Suite au problème que je te disais, il y a comme deux paragraphes dans mon texte, il y a quelques instants. J'espère seulement que c'est temporaire, cela dit, parce que ça change évidemment la relation qu'on va avoir avec le véhicule.
T'es 300 à 400, ou 400 km de batterie. C'est ça, là. Il t'en manque quand même pas mal.
C'est un morceau non négligeable. Puisqu'on est là-dessus, allons-y tout de suite avec le pot, là. Les fleurs suivront. La Bolt EUV a plein de qualités, mais elle a aussi quelques défauts. D'abord, c'est un modèle pas vraiment aussi spacieux qu'un VUS électrique comme le Hyundai Kona électrique, qui est un excellent exemple. Son habitacle est un peu étroit, même s'il fait 15 cm, je disais un pied tantôt. C'est un peu moins qu'un pied, là. C'est même un demi-pied en impérial. 15 cm de plus en longueur que la Bolt. L'espace intérieur demeure plutôt exigu. Le coffre est à peu près le même volume que celui de la Bolt et la place pour les jambes au pied de la banquette à l'arrière là, continue d'être insuffisante, même si c'est là qu'on a mis le plus gros du gain d'espace là, par rapport à la Bolt tout court. Ensuite, son nom, Bolt EUV, là, ça sous-entend quand même un peu que c'est une version, disons, VUS de la Bolt, ce qui est un peu trompeur là aussi, étant donné qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une version de ce modèle-là qui serait à 4 roues motrices, ce qui est un truc que les gens recherchent beaucoup.
Ouais.
Cela dit, bien évidemment, rien n'empêche Chevrolet d'ajouter une version à rouage intégral plus tard, mais en ce moment, on n'a rien, disons-le comme ça. De toute façon, côté VUS, là, Chevrolet a, on le sait, hein, l'Equinox EV et le Blazer EV qui s'en viennent.
Qui vont
tout à fait intéressant dans des formats plus grands.
Oui, puis qui vont probablement remplacer la Bolt qui va disparaître l'année prochaine. Là, je me mouille, mais c'est écrit dans le ciel parce que là, on annonce aux États-Unis un Chevrolet Equinox à 30 000.
Et voilà.
US qui est à 35 000 Canadiens.
Fait que...
qui est deux fois plus grand qu'une Bolt, qui va être 4 roues motrices.
La plateforme Ultium.
La plateforme Ultium, tu sais, fait qu'on va, écoute, là, on va tasser tranquillement le Bolt, et d'après moi, là, ceux qui en veulent un, ça sera un peu de temps cette année. Là.
Exactement. Ben écoute, tu me voles les mots de la mouche. Les mots de la mouche, oui.
La mouche
qui parle, on la connaît pas, celle-là. ça place évidemment la Bolt EUV dans une drôle de situation. Là, c'est une petite familiale électrique bon marché, disons-le comme ça, dont le prix de détail peut être amorti en 1,5 an si on la compare à celui d'une voiture à essence d'à peu près le même format. Ça, c'est le gros atout de ce véhicule-là. C'est-à-dire que si on veut acheter électrique pour sauver des sous, c'est un des meilleurs véhicules pour le faire.
C'est vrai.
En fait, n'importe quel automobiliste qui prévoit parcourir 30 000 km ou plus avec sa voiture va non seulement sauver des tonnes d'argent, parce qu'on a pu aller à la station de service, mais il va aussi concrètement réduire ses émissions totales de GES, extraction des matériaux et fabrication du véhicule compris. Ça, c'est un calcul qu'on avait utilisé dans le devoir. On avait reçu un collègue,
oui,
Alexis,
je m'en rappelle,
qui avait calculé qu'effectivement, ce véhicule-là, après 30 000 kilos, c'est un gain environnemental net. Donc, c'est quand même intéressant de le dire. Et effectivement, ça veut dire qu'il y a du bon à acheter ce véhicule-là. Au volant aussi, là, on apprécie aussi quand même le comportement assez terre-à-terre de ce véhicule. Visibilité excellente, accélération correcte, on s'entend que c'est pas une sportive. Et la tenue de route est rassurante. Elle est moins, je dirais, balourde que ce que les véhicules électriques généralement nous proposent comme comportement routier. On sent pas que la batterie apaise puis qu'elle affecte tant que ça le comportement dans les virages, des choses de même. La version EUV de la Bolt, c'est un détail pour ceux qui aiment la techno, a aussi droit au système avancé d'aide à la conduite Super Cruise, qui est une exclusivité à ce modèle-là entre les deux Bolt. C'est le fun, je veux dire, c'est le fun sur l'autoroute parce que quand tu fais des grands bouts d'autoroute, tu mets ce système-là, puis c'est vraiment une aide à la conduite qui te garde dans ta voie. Puis elle le fait très bien, elle respecte le trafic, puis c'est pour les gens qui n'aiment pas
puis
conduire sur l'autoroute.
On a démocratisé le Super Cruise. T'sais, c'est arrivé au départ dans les modèles haut de gamme chez Cadillac. Après ça, on a eu quelques modèles haut de gamme du côté de GMC. Puis là, bon, on le retrouve finalement dans des modèles assez de base, disons-le, du côté de Chevrolet.
Ouais. À bord, on a aussi droit à un élégant affichage très vertical, là, sur lequel, très horizontal, je me suis trompé dans mon axe, sur lequel on peut afficher CarPlay ou Android Auto sans fil. C'est rendu la nouvelle norme, puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut mentionner, parce que pas tous les véhicules qui l'ont. La finition, on s'entend, c'est loin d'être du luxe, mais c'est confortable, c'est, je pense que c'est bon.
Ça fait le travail. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, moi, quand on nous, tu sais, si on nous offre quelque chose de très de base, mais que finalement, vous avez à l'intérieur un prix qui est très élevé, là, tu dis, OK, là, je me fais ramasser.
Mais quand ça a l'air cheap,
mais
c'est ça.
Mais là, tu dis, c'est pas le grand luxe, mais le prix est à l'avenant.
Exactement.
À ce moment-là, moi, j'ai pas de problème.
Non, puis, écoute, j'imagine qu'à long terme, on imagine que conduire une boîte EUV l'hiver pourrait être comme quelque chose qui va refroidir, encore dans les jeux de mots, quelques acheteurs potentiels. On va se le dire d'entrée de jeu, les pneus installés à l'usine ne sont pas particulièrement adhérents, mais c'est pas des pneus d'hiver.
Fait que, une question. Et surtout, les véhicules électriques, on a toujours le même principe. C'est des pneus qui offrent le moins de résistance possible au sol. Ça veut souvent dire des pneus qui sont un peu lisses, qui sont pas très adhérents, qui ont... Alors, écoutez, si vous voulez faire peut-être quelques kilomètres en moins d'autonomie, mais acheter des bons pneus, faites-le donc.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner pour ce véhicule-là, c'est de l'équiper. L'été, c'est pas grave, parce que ce qu'on veut, c'est maximiser.
Mais tu sais, l'hiver, des bons pneus d'hiver sur une Bolt EUV, vous allez être parfaitement sécurité.
Oui, parce que j'allais dire des bons freins aussi, mais dans le fond, il y a la conduite à une pédale qui permet de ralentir avec le moteur, ce qui ralentit mieux, en fait, dans une situation de moindre adhérence, de moins bonne adhérence. Donc, voilà. Mais bon, conclusion, dans l'électrique comme dans l'essence, là, ce que les gens recherchent, on le sait, hein, c'est avant tout des VUS, et c'est un peu malheureux, mais la Bolt EUV n'est pas le Bolt SUV. Ça, c'est on peut pas le dire autrement.
Non.
Ce véhicule-là n'est donc pas pour tout le monde, n'est pas pour ceux qui ne sont pas prêts à faire le compromis pour sauver des sous.
Non, puis c'est pour ça que je dis, quand le Blazer et l'Equinox vont arriver, c'est merci, bonsoir.
Et je pense que c'est ce qui a mené à ça, c'est que la réflexion chez GM, c'est celle-là. On peut pas vendre ce véhicule-là comme ça, ça nous prend quelque chose. Puis l'Equinox, la marque est connue.
En fait,
le Blazer,
moi, j'aimerais bien
classique.
Qu'il laisse le Bolt de base là. Mm-hmm. Pour dire ceux qui veulent une auto, parce que c'est pas tout le monde qui veut un véhicule utilitaire là. On pense croire à tort que tout le monde aime ça, et ça m'amène à mon essai moi de cette semaine qui a été très rafraîchissant parce que j'ai conduit une vraie auto. Tu sais, on a là, c'est un utilitaire par-dessus l'autre.
Ça arrête jamais. Ça,
puis
c'est
bon,
très vrai.
Je l'ai déjà dit en onde et je le répète, j'aurai jamais ça un utilitaire moi. Ça ne m'intéresse pas. Je suis capable de voir le côté intéressant de la chose, le côté pratique, oui, mais l'expérience de conduite, pour moi, là, c'est toujours une déception dans 98% des modèles. Il faut aller dans des modèles hors de prix pour dire, ah oui, c'est le fun, oui, mais c'est 125 000. Tu sais, ça n'a pas de bon sens.
Exact.
Là, j'ai conduit une Volvo, je le dis tout de suite, c'est une S60, la B5 All-Wheel Drive R-Design, pour être très précis,
qui commence à 52 750.
Il y a des mots-clés là-dedans qui sont très intéressants.
Oui, oui, oui. Considérant que le prix moyen d'un véhicule au Canada en ce moment est de 55 000 on est même en bas de la moyenne. bon, OK.
C'est vraiment une bonne nouvelle.
J'avais le système Bowers & Wilkins dedans et une couple d'options qui amenaient le prix à 63 000. Bon, le prix de détail suggéré du modèle à l'essai, c'est à 63 000. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que on a toutes sortes d'affaires de fun là-dedans. La conduite est, bon, moi, j'ai une Audi A4. En fait, je roule des Audi A4 depuis 2005. C'est la voiture de ma femme.
Ah oui.
Mais je la conduis souvent. Et c'est le premier véhicule qui m'amène à peu près dans ces eaux-là.
Oh.
Moteur 2 litres, 247 chevaux, 258 livres de pied de coupe. Et là, tu le sais, Alain, tous les nouveaux moteurs ont l'hybridation douce.
Oui.
La beauté de l'hybridation douce, quand on conduit, c'est que ça coupe complètement ton lag de turbo. Avant, on avait toujours, puis t'en conduis depuis pratiquement aussi longtemps que moi, des autos, t'avais des turbos, t'avais rien, d'un coup, paf!
L'effet de turbo.
Et avec l'hybridation, ça arrive, pouf, extrêmement progressivement. Et ça prend une partie de la charge du moteur à essence et vous vous ramassez avec du 7,5, 8 litres au 100 dans une voiture relativement performante. Il y a 4 roues motrices qui fonctionnent extrêmement bien. Ça aussi, c'est intéressant.
Ben, tu le dis comme ça, ça doit être un petit défi d'ingénierie d'essayer de tout arrimer, le moteur, le turbo et la portion électrique pour que ça s'agence bien comme ça, sérieusement.
Ben, c'est ça. Là. Puis on voit que cette technique-là a été maîtrisée de belle façon. Parce qu'on a un peu pas ri de Volvo, mais quand ils ont dit non, nous autres, à l'avenir, ça fait une couple d'années, là, ça fait 6-7 ans, de tout ça, on va avoir un moteur 2 litres pour tous les modèles.
On branche tout ce qu'on
puis
peut
là-dessus. Puis on va tout arranger. Oui. Puis l'autre, t'as dit,
oui, c'était toute une affirmation.
Tu regardes maintenant avec les piles. Mm-hmm. Bon, ben c'est un peu le même principe. T'es un fournisseur de piles, puis tu vas mettre ton plateau plus ou moins grand selon la puissance que tu veux. Ben eux autres, il y a un turbo, un compresseur, hybridation douce. Tu veux-tu un, les deux, les trois, puis tu veux-tu 240, 360, 450, combien tu veux de chevaux? On va tout arranger ça. Tu regardes, la semaine passée, mon XC90, j'avais 455 chevaux, parce que c'était le Recharge, avec l'hybride, l'autonomie, la grosse batterie, puis t'avais 523 livres pieds de coupe. Là, t'as quelque chose de plus... Il n'y a pas d'autonomie électrique. C'est une hybridation douce qui est là pour aider l'économie de carburant. Mais on le sent, à bas régime surtout, ça vient récupérer l'espèce de perte d'inertie qu'il y avait quand tu pars avec l'auto. Alors, c'est extrêmement doux à rouler. C'est une Volvo, donc c'est très confortable. Les sièges sont moulants, très silencieux. L'espace est bon. Tu sais, le S60, ça, c'est l'équivalent d'une série 3, d'une A4, d'une classe C. Je trouve que le format est bien pensé.
Visuellement distinct, quand même.
Puis le j'avoue que, écoutez, si vous êtes audiophile, investissez un petit peu le Bowers & Wilkins là-dedans. Ah, monsieur, oui. Je suis allé écouter mes vieilles affaires de vieux rocker hier, là,
ils font des bons systèmes pour la maison, ça, il n'y a aucun doute. Là,
oui. Et franchement, le 3 700 $, pour ceux qui aiment ça, c'est un investissement qui en vaut la peine. Parce qu'il y a des systèmes, tu l'écoutes, tu dis, pas sûr que j'investirais, mais celui-là, franchement, il est extrêmement bien fait. Donc, en général, c'est un véhicule qui, pour le prix que vous allez payer, vous donne. Et tu sais, c'est une catégorie où on recherche pas la performance. Parce que Volvo... on peut pas comparer, même si on avait des Polestar à l'époque ou les Polestar Engineering, avant que Polestar soit une marque définie, on avait des modèles un peu plus sport chez Volvo, mais on pouvait jamais comparer ça à une M, à une AMG, à une RS chez Audi.
Mais ça n'a jamais été la marque Volvo.
Non, puis c'est pas là que Volvo est bon.
Ouais.
Volvo est bon dans exactement ça, un modèle d'entrée de gamme de luxe, bien fait, silencieux, sécuritaire, intéressant, rafraîchissant à conduire. Tu sais, l'intérieur a un bon niveau. Bon, évidemment, il y a encore un peu de travail à faire avec tu sais, faut toujours passer les menus par la droite là sur l'écran.
Un petit coup de pinceau, ouais.
C'est le même pour tout le monde. Donc ça, si moi je devais donner un conseil à Volvo, travaillez donc là-dessus d'ici un an ou deux là pour vous. Parce que si on regarde ailleurs,
avec les systèmes comme le Hey Mercedes ou le, les nouveaux systèmes à deux écrans
ben,
du
Volvo,
côté d'Audi.
Ils ont une entente avec Google pour leur système embarqué,
bon, ben,
donc ça risque de s'en venir.
Ça risque de s'en venir parce que franchement, à part ce petit défaut-là, parce que c'est un petit peu compliqué encore d'opérer ça, tout le reste... J'ai rien à dire. Franchement, une belle, belle ride. J'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. Je le roule encore pour la fin de semaine, puis je vais en profiter. Alors, nous, écoutez, c'est déjà la fin. Hey, ça va-tu vite? Alors, merci d'avoir été là, M. McEnor. Merci, Claude Hébert,
merci,
qui était derrière la console. La semaine prochaine, je vais être en mesure de vous parler de la RS5. Parce que là, l'embargo va être levé. Et on se parlera de d'autres choses, certainement. Alors, soyez prudents sur la route. C'est on se parle la semaine prochaine. Salut.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.